Le mal logement. Ouais, maintenant, ouais, c'est un enfer. Et bon, outre le fait des gens qui habitent dans la rue, qui ça est un énorme autre problème, mais vraiment les gens qui habitent dans des taudis, quoi. Taudis humides, des passoires thermiques. Je comprends pas.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, toujours en effectif réduit aujourd'hui, puisque oui, Manon Mariani, que nous ne surnommons plus désormais Topinette, mais Gollum, rapport à sa nouvelle voix d'outre-tombe, plus rocailleuse que celle de Joe Cocker sur la fin. La Marianoche, donc, est toujours alitée avec une tisane aux herbes, dont j'aimerais vous dire que ce sont des herbes légales, des sachets éléphants, mais vous connaissez ses inclinations. Un repos forcé qui pèse sur son moral, et elle, d'habitude si douce, si bienveillante avec ses proches, devient assez irritable, comme Quentin a pu le constater quand il a voulu hier, alors qu'il lui rendait visite, ajouter une cuillère de miel à son infusion aux herbes.
Qu'est-ce qu'il fait ? Stupide hobbit joufflu !
Manon, Quentin n'est pas joufflu. Hobbit peut-être, mais pas joufflu. Bref, vivement qu'elle se remette.
J'ai du poil sur les pieds.
Et qu'elle nous revienne. Oh mon Dieu, voilà une précision qui plaira à vos
comme
fans.
Comme l'hobbit.
Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses tendances. Et aujourd'hui, la tendance qu'on va examiner n'est pas réjouissante. Elle est même glaçante. Car pendant que vous vous prélassez dans vos appartements haussmanniens de 130 mètres carrés, certains poussant même le curseur de l'insolence jusqu'à posséder une résidence secondaire à la campagne. Je pense à notre stagiaire Jade, qui possède la moitié de Deauville.
C'est ça.
Eh bien, dans son dernier rapport, la Fondation pour le logement des défavorisés parle de 2025 comme d'une année noire du mal-logement en France. Un diagnostic qu'on a l'impression d'entendre chaque année, qui démontre qu'au-delà des effets d'annonce des dirigeants politiques, le combat pour le logement semble faire du surplace, et ce, malgré les engagements répétés d'Emmanuel Macron durant chacune des 2 dernières campagnes présidentielles. Alors, bien sûr, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va sortir tout le monde de la rue.
For sure.
Personne ne dit que c'est facile de garantir un accès au logement décent à tous.
For sure.
Mais est-ce que, devant cette situation de plus en plus inquiétante, on ne manquerait pas tout de même un tout petit peu de volonté politique quand même?
For sure.
Voilà, merci pour votre honnêteté, monsieur le président. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Christophe, vous êtes le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, qu'on appelait jadis Fondation Abbé Pierre. Vous publiez aujourd'hui le 31e rapport de la Fondation sur le mal-logement, rapport qui mesure pour la première fois une nouvelle tendance malheureuse, l'hébergement contraint chez un tiers. Vous interpellez les pouvoirs publics locaux sur la situation du logement, un système à bout de souffle, dites-vous. Vous appelez également à faire du logement un droit fondamental effectif. Les chiffres font froid dans le dos, vous allez nous expliquer tout ça, comment on en est arrivé là, comment on peut remédier à cette situation. Juste le temps de vous présenter 2 nababs de l'audiovisuel public qui vivent dans des appartements si onéreux et au luxe si ostentatoire que je n'ose même pas vous les décrire. Cyril Lacarrière, oui. Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bon, oh bah, c'est... bonjour Cyril, vous êtes
cette
en forme.
Cette joie de vivre, communicative Cyril, c'est vraiment votre marque de fabrique.
Vous dites qu'on a des apparts onéreux, c'est ça?
Oui.
Vous êtes le seul autour de la table à avoir un paysagiste pour votre terrasse, mais on a des apparts onéreux.
Mais de quoi parlez-vous, Quentin? Mais vous vivez vraiment dans un autre monde, je ne sais même pas ce qu'est un paysagiste. Je ne sais même pas le dire, vous voyez, c'est un mot qui n'arrive pas à sortir de ma bouche. Mais d'abord, l'heure est donc à ce constat. Le mal-logement ne recule pas en France, il progresse. Christophe Robert, le rapport que vous présentez aujourd'hui estime que 2025 a été, je le disais, une année noire sur le front du mal-logement. Est-ce que ce n'est pas malheureusement ce que vous dites tous les ans, qu'on vit une année noire? Est-ce que rien n'évolue de manière positive?
Non. Y a des choses qui évoluent de manière positive. On voit par exemple que l'encadrement des loyers mis en place dans un certain nombre de communes sur la base du volontariat des maires fait baisser les loyers. Donc on peut agir. On voit que quand on se mobilise pour produire du logement social, ça détend dans un certain nombre de territoires la situation de ceux qui ont des ressources pas assez élevées pour se payer le marché actuel. On voit que pendant la période Covid, il y a eu cette préoccupation vis-à-vis des personnes sans-abri, vis-à-vis des personnes menacées d'expulsion locative, qu'on a réduit sensiblement le nombre de personnes à la rue et qu'on a réduit sensiblement le nombre d'expulsions locatives. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Donc à un moment, il faut le dire. C'est tout. Donc, sur l'enjeu des municipales, quand vous avez des collectivités qui agissent pendant 20 ans, elles changent la donne pour les habitants de cette ville. Quand il y a des collectivités qui font rien pendant 20 ans, ça a été le cas pendant longtemps à Marseille, c'est une catastrophe et on connaît les catastrophes auxquelles ça a pu conduire.
Mais il y a quand même donc des éléments très positifs.
Mais oui, mais bien sûr. En fait, on peut faire autrement. Le problème, c'est que ce truc du logement, il est souvent considéré comme coûteux, comme technique, comme compliqué. Les fruits de ce que l'on fait, c'est pas pour l'année en cours, les deux ans à venir, c'est souvent après son mandat de maire, de mandat de président.
Quand on est politique, on n'est plus là, donc...
sauf que c'est pour les gens, quoi. Donc, il y a un moment, il faut faire le boulot.
Pour nous raconter à présent l'origine de votre fondation, celui qui était là, le 1er février 1954, quand il faisait moins 15 dans Paris, il était stagiaire pigiste au journal L'Aurore, et il avait donc couvert cet événement, l'appel d'un homme qui ne supportait plus de voir des gens mourir de froid. Cyril, ne n'oublions pas la Fondation pour le logement, d'où ça sort.
Imaginez Paris, nuit du 1er février 1954, il fait moins 15 dehors. Dans les rues, des sans-abri meurent de froid. Un petit prêtre en soutane et béret force les portes de Radio Luxembourg. C'est l'ancêtre de RTL. Il lance un cri du cœur. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol. C'est l'acte de naissance de ce qui deviendra la Fondation Abbé Pierre. Oui, en France, en 1954, on crève de froid, littéralement. Au sortir de la guerre, la France peine à se reconstruire. Autour de Paris, il y a des bidonvilles. Oui, il y a des bidonvilles autour de Paris. La femme dont parle l'abbé Pierre, c'est Yvette. Elle avait été expulsée de son logement la veille. Elle a été retrouvée morte avec dans ses mains le papier d'expulsion de l'huissier. Un détail qui va rendre fou de rage le religieux. Après l'appel radio, miracle, un élan de solidarité emporte le pays. Les gens apportent des couvertures, de la soupe, de l'argent. Une légende raconte même que Charlie Chaplin, qui était à Paris à ce moment-là, aurait donné 2 millions de francs.
Alors, 1954, c'est la date du discours, mais pas la date de la naissance de la Fondation.
Non, en fait, elle naît beaucoup plus tard, en 1987, et est officiellement reconnue d'utilité publique en 1992. L'abbé Pierre avait compris que la charité ne suffisait pas et qu'il fallait une structure politique pour changer réellement les choses, ou en tout cas essayer de changer les choses. Et c'est elle qui publie chaque année le terrible rapport sur le mal-logement. Alors, d'où ça sort la prise en compte du mal-logement? Eh bien, de l'appel au secours poignant d'un homme qu'on imaginait incroyable et qui s'est révélé être un prédateur sexuel. Mais ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est celle de ceux et ceux qui sont mal logés et parfois même pas logé du tout.
Merci Cyril pour ce brillant exposé. Le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, Christophe Robert, est avec nous justement pour le 31e rapport sur le mal-logement. Un mot, la fin de la chronique de Cyril, est-ce que vous avez réussi à tourner la page de l'impact des affaires terribles qui touchent l'abbé Pierre à la Fondation? C'est déjà du passé?
Humainement, non. Enfin, la violence est terrible, enfin, je veux dire, donc on pense... bien évidemment à toutes ces femmes qui ont subi les violences graves de l'abbé Pierre. La fondation elle-même, parce qu'il y a tout le mouvement Emmaüs aussi qui est né après 54, mais la fondation, elle a un modèle économique un peu particulier, c'est qu'elle n'a pas de subvention publique. C'est une question d'indépendance pour les actions qu'on mène et le plaidoyer politique que l'on fait. Et en fait, enfin, 97% de ses ressources, c'est la générosité du public, c'est des dons, c'est des legs, c'est des donations. Et en fait, il y a une partie des gens qui donnaient, qui ne donnent plus. Qui n'ont pas vraiment apprécié qu'on ait rayé l'abbé Pierre.
Ah, d'accord.
Considérant que, c'est un peu contre-intuitif.
Ouais, ouais, ouais.
En disant, voilà, c'est une vieille histoire, vous parlez de victimes, ce sont des plaignantes, pourquoi elles ne se sont pas réveillées avant? Mais on sait comment ça marche, les violences sexuelles. Donc je crois que c'était nécessaire, nous, de rendre visible avec le mouvement Emmaüs que nous apprenions à ce moment-là. Et puis c'était nécessaire de changer de nom par respect pour les victimes. Donc il y a une baisse de dons, donc l'histoire n'est pas finie aussi sur ce volet-là, au-delà de la douleur pour les femmes. Mais voilà, c'est comme ça. Il fallait prendre nos responsabilités, on les a prises. Ce qui m'ennuie dans cette histoire encore plus que ce que vous pouvez imaginer, c'est que nous, avec cet argent de la générosité du public, on finance 800 associations, 800 projets par an, portés par 500 assos, et la baisse du don, forcément, réduit notre capacité à aider tous ceux qui aident les mal logés, les sans-abri. Donc ça me fout en colère.
Pour revenir sur le but de l'association, on se souvient de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 qui promettait que plus personne ne serait à la rue d'ici la fin de son premier mandat, même si ça concernait, il parlait ce jour-là dans le contexte des migrants. Oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un problème d'argent ou c'est un problème de volonté politique?
En fait, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. C'est que s'il y a aujourd'hui des personnes à la rue, et malgré le nombre de places d'hébergement qui a augmenté sensiblement, notamment pendant la période Covid, c'est qu'en fait, il y a deux problèmes. En amont de cette histoire de l'hébergement d'urgence, il y a plein de politiques publiques qui sont défaillantes. Les personnes qui sortent de prison sans logement. Les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sans solution de logement. Les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques qui ne sont pas accompagnées par la santé publique. Les personnes qui sont expulsées de leur logement.
C'est parce que ce n'est pas pensé, tout ça.
En fait, c'est plein de petites politiques qui font qu'à un moment, leurs insuffisances, on va faire que les personnes vont se retrouver à la rue. Et puis, parallèlement, il y a des personnes qui sont dans l'hébergement d'urgence ou dans l'hébergement d'insertion, mais le logement, c'est tellement cher qu'ils ne peuvent pas en sortir. Donc, c'est bloqué. Le système est bloqué. Donc, c'est toutes ces politiques qu'il faudrait activer ensemble, raison pour laquelle ce n'est pas si simple que ça, mais il faut le faire.
Marie Debreur, vous avez jeté un un œil aux nouveaux documents publiés dans l'affaire Epstein.
J'ai passé au peigne fin les 3 millions de documents rendus publics par la justice américaine
sur Epstein.
Non, je déconne, j'attends le documentaire Netflix. Moi, les affaires crime-justice, s'il y a pas de la musique qui fait peur, je comprends que dalle. Mais ce que j'ai retenu quand même, c'est que Jeffrey Epstein connaissait tout le monde, mais littéralement tout le monde. Hein. Dans les dossiers, il y a Jacques Lang, il y a sa fille, Caroline Lang. Il a aussi rencontré Pierre Moscovici, Bruno Le Maire. Il paraît même que c'est Epstein qui avait donné l'idée du bouquin Fugue américaine à Bruno. Ouais, un soir, ils ont échangé littérature. Jeffrey, il a dit à Bruno, « Do you know renflement brun de mon anus ?»« Because I know some little girls that are dilatées comme jamais. » Et Bruno, ensuite, il a écrit des pages et des pages et des pages. Et... C'est pas une théorie du complot, hein. C'est 100% vrai ce que je raconte.
On n'en doute pas une seconde.
Je vais vous parler de Jacques Lang, du coup. Moi, je suis née sous Chirac. Du coup, Jacques Lang, je sais pas vraiment qui c'est. Enfin, c'est pas exact. Je suis du mois de mars, donc je suis née 2 mois avant l'élection de Chirac. Mais disons que nourrisson, j'avais pas vraiment un avis sur Jacques Lang, quoi. Tu imagines, moi, le gros bébé de 4,3 kg être là. Je trouve vraiment que la fête de la musique, c'est un grand moment d'humanité. C'est une très belle initiative qu'a eu Jacques Lang. Car ne dit-on pas que la musique apaise les mœurs? Donne-moi ton ibar, maman, j'ai faim. Mais non, non. Hein, pour moi, Jacques Lang, c'est surtout un monsieur qui se teint les cheveux. Voilà. Donc, j'ai lu que sur l'affaire Epstein, Jacques se sentait blanc comme neige. Ouais, moi, je dirais plutôt marron comme chocolat. ou brun comme renflement. Hein, c'est la nouvelle teinte de casting Clem Glass de L'Oréal. Bon. La famille Lang est mentionnée plus de 600 fois dans les documents publiés par la justice américaine. Il y a notamment une vidéo de Jeffrey Epstein avec Jacques Lang qui pose tous les deux devant les pyramides du Louvre. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'aucun des deux ne fait la pose en mettant son doigt sur le bout de la pyramide pour faire un petit effet d'optique rigolo, voilà, avec un malin jeu de perspective. Dommage. Jacques Lang a déclaré que Jeffrey Epstein était un inconnu qui est devenu une connaissance, mais rien de plus. Jeffrey Epstein, lui, dans un mail, a dit que Jacques Lang était un grand ami avec le statut d'icône française. La relation à sens unique. Oh, c'est terrible. J'ai la même avec une copine du collège. Tous les ans, elle m'invite à son anniversaire alors que j'ai même pas retenu son nom de famille. C'est gênant. Enfin, c'est pas tout à fait pareil comme relation parce que elle est pas pédocriminelle. Enfin, que chache en tout cas. En fait, c'est surtout avec la fille de Jacques Lang, Caroline Lang, que Epstein a fait affaire. Caroline, elle bosse dans le Cinoche. Voilà, elle a taffé notamment sur le festival Cérimania.
Oh,
on a fait l'émission en direct l'année dernière. Ouais, vous savez ce que ça veut dire? Et ben qu'on est tous autour de cette table à 2 poignées de main de Jeffrey Epstein. Bon, il est mort. Donc, ça va être compliqué de lui serrer la paluche. Ou alors, c'est une très très grosse orga. Moi, j'ai pas du tout envie. Hein. Apparemment, Caroline n'a jamais reçu d'argent, mais Jeffrey lui aurait légué 5 millions dans son testament. 5 millions, c'est beaucoup. Et en même temps, la fortune d'Epstein s'élevait à 600 millions. Donc, tout est relatif, quoi. C'est comme si sur 100 euros, il lui avait donné 83 centimes. En fait, c'est pas si ouf, quoi. En tout cas, c'est juste des maths. C'est pas bien et pas de vanne.
Et ça vous a choqué, visiblement.
En tout cas, Caroline et Jacques Lang ont tous les deux déclaré qu'ils ne savaient pas qu'Epstein faisait du trafic sexuel. Caroline se rappelle juste qu'un jour, Jeffrey lui a dit « Si tu fais des recherches sur moi sur Google, peut-être que tu ne voudras plus jamais me parler. » Alors ça, c'est un red flag, Caro. Hein, moi, si tu me Google, le pire que tu vas trouver, c'est une photo de moi bourré à l'ouzo sur une île grecque. Et alors, je sais que tu as un certain goût pour les vacances sur les îles, Caroline, mais quand même.
Merci, Marie Debreuer. À suivre, pourquoi est-ce que certaines crises humanitaires sont oubliées par rapport à d'autres? Vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'on l'imagine, c'est parfois cynique. Quentin est allé vous demander ce que vous en pensez. Puis on parlera de celui qui a forgé la notion de grand remplacement, Renaud Camus. Le temps de s'écouter Curtis Harding, The Power, sur France Inter.
Joy comes faster. Rain don't feel like it used to. The sunlight feels better. Well, just be your light. And don't you give up now. There'll be strife, but we're gonna dance it out. Love will increase in the power.
love that baby. Yeah, just leave your life, and don't you give up now. There'll be signs, but we gon' dance it out. When your pain is releasing, your love will increase in the power. We're showing your love light, gon' grow when the pain is releasing. Your in the power, we're showing your love light, gon' glow.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
On accueille Adéa Guillot. Bonjour Adéa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes porte-parole de l'ONG CARE France qui a pour but justement de lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde. CARE est présent dans plus de 120 pays et vous avez sorti un rapport sur les crises oubliées, 10 crises humanitaires passées sous silence par les médias. Vous dites, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, porter assistance à des personnes en danger n'est plus unanimement reconnu comme un impératif vital. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est dans une période d'égoïsme, de repli sur soi?
En tout cas, on est dans une période où certainement, dans le monde en ce moment, on aimerait nous dresser les uns contre les autres et où cette idée qu'il y a une responsabilité collective à prendre soin les uns des autres pour le bien de l'humanité, eh bien, en tout cas, aujourd'hui, ça ne semble plus faire l'unanimité. Très concrètement, quand même, nous, on est humanitaires, on vit ces dernières années une remise en question fondamentale du droit humanitaire international.
Ça se manifeste comment? Par les financements uniquement?
Non, ça se manifeste d'abord par le nombre de morts dans nos rangs. Sur 2025, on a eu près de 380 morts dans le monde de l'humanitaire. On n'avait jamais atteint tel niveau de gens spécifiquement visés parce qu'ils sont humanitaires.
Oui, même pas des dommages collatéraux, sont visés.
Visés. Vous savez, on est comme les journalistes, nous, sur les sites de guerre. Ouais. On est identifiés. Vous avez des gilets presse. Ouais, nous, on a des gilets humanitaires, ouais. On a des drapeaux sur nos voitures, on a des cibles, on a nos logos partout. Donc, quand on nous tire dessus, qu'on vise l'une de nos voitures, on sait très bien qu'ils l'ont tué.
Mais ça, généralement, c'était respecté avant, ça l'est moins aujourd'hui?
Ça l'était beaucoup plus avant, et surtout, il y avait beaucoup moins d'impunité. La remise en question aujourd'hui, c'est qu'on ne tient pas pour responsable, en tout cas, on ne recherche pas la responsabilité des gens qui nous targetent. Mais il y a la question de nous targeter, mais il y a aussi la question des financements.
Dans les 10 crises humanitaires que vous avez détectées, recensées, 8 concernent l'Afrique, personne ne parle effectivement de la situation au Zimbabwe, où pourtant 7,6 millions de personnes sont en situation d'urgence humanitaire. Qu'est-ce qui se passe au Zimbabwe?
En fait, là, on est vraiment toute l'Afrique australe, et après Zimbabwe, Malawi, Namibie, on est sur des endroits où on a les impacts du changement climatique qui se sentent d'une manière très aiguë. C'est-à-dire qu'on est dans ce cycle infernal, inondation, sécheresse, inondation parce que sécheresse, parce que sol érodé, parce que incapable de fixer l'eau. Et donc finalement, on a à la fois des déplacements de population et à la fois des récoltes qui sont complètement détruites très régulièrement. Et donc on est là, dans ces pays désormais, dans le retour de la faim. On pensait qu'on avait éradiqué la faim. Eh bien non, la faim revient. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'accompagner ces millions de personnes pour essayer de mettre en place une agriculture qui s'adapte au changement climatique.
Mais est-ce qu'on a détourné le regard ? Moi, je me souviens de campagnes internationales pour envoyer du riz en Somalie ou en Éthiopie. Les années 80, les chanteurs aussi qui s'étaient mis ensemble pour chanter. Ça n'existe plus, ces élans de solidarité ou quoi ? Pour quelle raison on aurait arrêté ?
Je pense aussi qu'il y a une façon de raconter ces crises. Et que peut-être aujourd'hui, cette fatigue compassionnelle nous oblige les uns et les autres, vous les médias, nous les ONG, à raconter tout ça d'une manière différente aussi, pour continuer à ce que les gens s'y intéressent. Vous savez, en fait, en réalité, quand on met en regard ces crises, les gens s'y intéressent, puisqu'ils nous donnent.
On peut parler,
c'est quand même le signe de la générosité.
Est-ce qu'on peut parler, quand on voit Donald Trump, ce que font les États-Unis actuellement, qui coupent l'US aid, est-ce qu'on peut parler de backlash humanitaire à l'échelle mondiale ?
Oui, ça va même plus loin. Quand je parle de remise en question idéologique du droit humanitaire international, on y est. On est dans une époque extrêmement trouble en ce moment.
Il n'y a pas que le droit humanitaire, il y a le droit international qui est remis
en cause. Il y a le droit humanitaire tout court. Au sein duquel le droit humanitaire international, on a un backlash sur les droits des femmes, spécifiquement. Une organisation comme la nôtre, vous savez, CARE, on est dans le monde depuis 80 ans, on est dans 120 pays, donc autant dire que des crises, on s'en est mangé, des conflits, on est présent sur à peu près tous les points chauds de la planète, depuis 2 ans, et notamment depuis 1 an, et l'annonce de la fermeture du USAID par Donald Trump. Du jour au lendemain, on a dû fermer des dizaines de programmes qui aidaient les femmes et les filles spécifiquement. C'est-à-dire que l'agenda idéologique qui est en œuvre depuis 1 an, il est spectaculaire, il est inédit. On n'a jamais vu ça, nous, humanitaire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Après son bain de foule vendredi à Rouen, où il a été presque, on l'a dit, porté en triomphe par les Rouennais.
Attendez,
tu te fais huer.
Ah non, mais les sons sont pas bons.
Et
en plus.
Après,
vous avez trafiqué tous les sons.
Et après quelques belles rencontres avec ses frères normands.
Je suis désolé, gars, mais tu vis à Paris, t'as grandi à Alençon, ça justifie pas le fait que t'es normand.
Et non, Quentin, retour à Paris, donc votre ville. Celui-là, on l'a pas trafiqué de son.
Non, celui-là, il est pas trafiqué.
Ah bah oui.
Mais le premier a été trafiqué.
Retour à Paris, Quentin.
Dites la vérité aux gens.
Je dis la vérité, Quentin. C'était un petit peu trafiqué. Retour à Paris pour vous ce matin pour évoquer dans la rue les crises oubliées. Donc.
Je rentre de Rouen au carrefour qui se trouve au pied de la gare Saint-Lazare. Je rencontre Luc, ordinateur portable dans une main et ce grand sac Ikea bleu très pratique pour transporter plein de trucs. Il bosse dans le marketing.
Les crises oubliées. Parce qu'il y a sûrement plein de choses en crise dans le monde et que l'actu fait beaucoup de focus sur des grosses crises et qu'on en oublie d'autres. Je pense que des crises géographiques, oui, parce que plus on est proche d'une crise, plus elle nous touche. On oublie peut-être ce qui se passe plus loin. Après, je pense que la tonne de crises et d'infos fait qu'il y a un tri qui se fait.
Mais alors ce tri, justement, comment il se fait ? J'arrête maintenant Christine, une retraitée cachée derrière des grandes lunettes rétro.
Les crises oubliées ?
Qu'on a tendance à mettre de côté, vu la problématique États-Unis et tout ça, on ne parle pas. Presque plus des gens qui montent dans des dinghies qui traversent la Méditerranée. En ce moment, ils sont un peu passés à la trappe, tous ces gens-là. Et pourtant, il y en a qui se sont noyés, là, il y a 2-3 jours, là. Donc, ceux de Calais, bon, avant, on en parlait beaucoup, ça ne parle pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu les oubliés par rapport à l'Ukraine, États-Unis.
Ouais, on voit effectivement que la photo, par exemple, du jeune Ilan, cet enfant mort échoué sur une plage alors que sa famille tentait de traverser la Méditerranée, cette photo qui avait tant marqué le monde en 2015 est quand même très loin derrière nous. Sarah a 24 ans. À quoi elle pense quand je lui parle de crise oubliée ?
Il y en a beaucoup, quoi. Le Yémen, le Congo.
Tu vois, on disait là.
La crise climatique aussi.
Alors c'est vrai, on en parle moins aussi, même si l'actu est souvent rempli de conséquences avec des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais encore là, on ne parle pas souvent de l'Afrique. Nous parlons avec Sarah de l'actu du moment.
En fait, c'est épidermique. Oui, il y a un focus sur Trump. Mais c'est un peu de la télé-réalité, tout ça. C'est comme Macron, for sure, avec ses lunettes et tout. Nous, notre nouvelle génération, enfin voilà, la Gen Z et tout, on va plus se focus sur des aspects drôles de la politique. Genre Trump, on va en rire. Genre Macron, on va en rire. Et en fait, on est totalement détourné des vrais problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pour que ce soit repris, il faut que ce soit simple, lisible, assez facile, que tout le monde ait vu passer l'image marquante avec, si possible, une punchline ou un accent ridicule.
Ouais, en fait, on va rigoler d'un même sujet tous ensemble. Donc on va se sentir un peu liés en mode « Ah ah ah, regardez comme on est drôle et tout ». C'est pas... Il y a tellement de trucs qui se passent, on sait plus où mettre notre attention en fait.
Je discute maintenant avec ce monsieur, prof dans une fac, il réagit aux crises oubliées.
Enfin, je veux dire, moi, il y a 30 ans, j'avais découvert un bouquin d'un situationniste qui s'appelait Guy Debord, qui est très connu, qui s'appelle La Société du Spectacle. Ça résume à peu près ça, quoi. Ce qui prime aujourd'hui, notamment dans les médias dominants, c'est effectivement le spectacle au détriment de choses beaucoup plus significatives. Il y a un rapport qui est publié chaque année par l'organisme, le PNUD, qui dit bien à chaque fois voilà, qu'il continue à avoir des gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas d'eau, qui ont... voilà.
Pour lui, les médias ont une énorme part de responsabilité.
Alors là, je parle de France Inter, je parle de tous les médias. Oui, vous avez une responsabilité, oui, c'est vrai que... Il n'y a pas, en tout cas, plus comme avant, des journalistes qui se déplacent, qui, excusez-moi, je vais être trivial, mais qui effectivement lèvent leur cul de leur chaise pour effectivement aller enquêter, aller investiguer. Parce que je pense qu'il manque aussi des gens, enfin des gens qui rapportent sur le terrain, qui... Ça les intéresse plus, ce genre de choses. C'est pas vendeur. En plus, bon, il y a un autre problème, c'est... On sait qu'aujourd'hui, 80% de la presse en France, et c'est un gros problème, effectivement, sont détenus par des milliardaires. Je pense pas que ce genre de sujet les intéresse outre mesure.
Ma dernière rencontre, c'est Leslie. On parle du mariage de Jeff Bezos, qui génère plus de 100 000 articles, pendant que la Centrafrique, où près de 2 millions de personnes sont en détresse humanitaire, en génère à peine 1 500. Je lui demande ce qui prend trop de place aujourd'hui dans l'actu.
Lesquels? Alors, on a quoi en ce moment? Les Beckham. Le problème Beckham qui revient beaucoup alors qu'on n'a rien à serrer en fait.
Alors là, vous tombez sur quelqu'un qui est d'accord avec vous.
Ça prend énormément de place. Je swipe à gauche Beckham, je swipe à droite Beckham.
Ben oui, je lui demande comment c'est possible qu'on s'intéresse davantage à un Nepo Baby qui raconte que sa maman lui a volé la vedette lors de son mariage d'ultra privilégié plutôt qu'à des crises humanitaires.
J'ai pas envie de le dire. Enfin, c'est des personnes blanches, désolé, non racisées, qui prennent énormément de place dans les médias. Tu vas pas voir des petits Africains qui sont en train de mourir dans les mines. Tu vas pas voir des petits Africains qui sont en train de se faire tirer dessus à gauche à droite en Afrique. Parce que ça... Je sais pas, ça n'intéresse pas la grande masse. Je pense une question de couleur, une question de race, une question...
Il y a un biais raciste.
Voilà, c'est tout.
Et au fond, la réponse est peut-être là. Ce n'est pas que les médias ne savent pas, c'est qu'ils préfèrent raconter une robe, un nom, un héritage. Parce que le gossip rassure, divertit, fait cliquer, devient un mème. Un truc simple à aborder entre amis ou au bureau. Parce qu'un Beckham, ça fait moins peur qu'une famine de plus en Afrique. Et pendant qu'on commente le mariage de Bezos qui a privatisé Venise, une partie du reste du monde, lui, continue de mourir hors champ. Bah ouais, c'est moins marrant, tu comprends.
Gaspard Delhem, Olivier Faye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes tous les deux journalistes pour M, le magazine du Monde. Gaspard, on vous doit notamment un livre enquête sur François-Marie Bagnier. Olivier, vous travaillez depuis plus de 10 ans sur les extrêmes droites en France et partout dans le monde. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour votre nouvelle enquête, L'homme par qui la peste arriva, aux origines du grand remplacement. Un livre événement qui vient de sortir chez Flammarion sur Renaud Camus, ancien militant de gauche, ami de Roland Barthes et d'Andy Warhol, devenu idéologue d'extrême droite. C'est lui qui théorise donc à partir de 2009 cette thèse du grand remplacement qui infuse aujourd'hui dans les discours de la droite nationaliste. Trajectoire spectaculaire que celle de Renaud Camus, parce qu'au départ, c'est un provincial qui s'installe à Saint-Germain-des-Prés, il fait Sciences Po, il s'invente une filiation nobiliaire, il s'engage au Parti Socialiste, il soutient François Mitterrand. On est loin à ce moment-là de pouvoir imaginer ce qui va devenir un jour.
Oui, effectivement, c'est Olivier. Quelqu'un qui voulait réussir, en fait, qui voulait monter à Paris. C'est un peu le personnage balzacien, classique, grand écrivain, qui s'imagine pourquoi pas diplomate. Ses parents, en tout cas, font de grands espoirs en lui, parce que c'était un très bon élève, qui déjà, à 14 ans, écrivait des pièces de théâtre. Enfin, voilà, c'était un petit prodige. Une fois arrivé à Sciences Po, bon, il se prend quelques mauvaises notes dans la tête. Il se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Néanmoins, il arrive à trouver des parrains assez puissants. Roland Barthes, par exemple, le philosophe. Louis Aragon, qui...
Mais comment il séduit Roland Barthes, Aragon ?
Il les rencontre dans les cafés à Paris, au Café de Flore, dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Et il les aborde, en fait. Il est timide, mais en même temps, il se dit, bon, ces gens-là peuvent quelque part m'aider. Est-ce que j'ai pas de réseau à Paris ? Et effectivement, c'est un personnage Camus qui est assez brillant quand même, parce qu'elle a la culture, qui sait écrire. Et le personnage a quand même un peu d'attraction sur ses puissants parrains. Et ses puissants parrains, là, au début, vont l'aider. Et quand il publie ses premiers livres, qui sont des romans d'avant-garde, c'est même pas des romans, c'est des livres d'avant-garde un peu arides, un peu compliqués, l'espèce de patchwork littéraire où on mélange du Proust, on mélange plein de choses, plein de références différentes, la critique se dit « Ah tiens, pourquoi pas, il se passe quelque chose. »
Une promesse.
Peut-être que ça peut devenir un écrivain important. Et cette promesse originelle, en fait, elle ne sera jamais accomplie. Et donc... Donc de là vient peut-être une des raisons de
son évolution. Pardon, mais là-dessus, sur le côté écrivain, il n'est jamais devenu écrivain célèbre, ça c'est sûr, grand public non, mais même dans l'intelligentsia, il a jamais eu un moment où il est devenu un écrivain un peu pointu ou
Il a été bien vu parce qu'il y a un livre en particulier qui s'appelle Tricks, dans lequel
il raconte sa
vie sexuelle, ses rencontres avec des hommes, et donc toutes ses aventures, où il décrit de manière très... très naturaliste quelque part, très cru ce qui se passe.
Et celui-là, il marche.
Et ça, c'est un des premiers livres.
Il est traduit aux États-Unis. Et il y a un côté, la démarche est assez osée. Hein. On parle du début des années 80, l'homosexualité est quand même un sujet encore assez sulfureux. Et voilà, il y a ce premier succès avec Trix.
Il faut qu'on revienne aussi sur l'origine de sa grande théorie, entre guillemets. C'est en 2009 qu'apparaît ce terme de grand remplacement dans les écrits de Renaud Camus. Dans quelles circonstances, Gaspard?
Il est Renaud Camus, donc il a une série qui s'appelle « Demeure de l'esprit ». C'est des visites qu'il fait dans les maisons en fait de grands créateurs, de musiciens, d'écrivains. Ça devient une sorte de guide de touristique de luxe qu'il édite, qu'il publie chaque année. Pour cette série « Demeure de l'esprit », il se rend au Danemark. Et donc, il remarque que, à son grand déplaisir, il y a beaucoup de femmes voilées au Danemark, et il le note vraiment en le déplorant. Et pour la première fois, il y a cette phrase les Danois, il dit en substance, les Danois n'ont pas peur de se faire grand remplacer. Ici aussi, le grand remplacement est à l'œuvre.
C'est la première fois que l'expression est lancée.
Voilà.
Camus n'apparaît plus dans les médias depuis plusieurs années, sauf en 2021 sur CNews avec l'approbation de Vincent Bolloré. Vous racontez cet épisode dans votre livre, mais comment sa théorie fumeuse de grand remplacement arrive quand même à devenir l'un des thèmes de la campagne de 2022, portée par Éric Zemmour?
C'est notamment effectivement grâce à Éric Zemmour, parce que Zemmour et Camus se connaissent depuis en gros 2011. Ils se rencontrent dans un colloque et ensuite il leur arrive de déjeuner, d'échanger. C'est l'époque où Zemmour est encore journaliste et donc c'est l'époque où Zemmour peut se permettre entre guillemets toutes les outrances. C'est pas grave, ça n'a pas de conséquences politiques. Et il reprend la théorie du grand remplacement, il la porte vraiment de manière très forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a découvert l'œuvre de Camus en partie grâce à un proche qui a été collaborateur de Marine Le Pen, qui s'appelait Philippe Martel. Et ce proche, on a retrouvé dans les mails de Renaud Camus, envoie un jour un mail à Camus en disant « Je fais découvrir votre œuvre à Éric Zemmour, faire infuser votre pensée en la sienne est un exercice réjouissant. » Et en fait, ce mail date de 2011 et c'est assez vertigineux de se dire que potentiellement, Éric Zemmour est devenu ce qu'il est en partie à cause ou grâce à Renaud Camus.
Merci Gaspard Delhem et Olivier Faye d'être passés nous voir. Dans un instant, le Zoom Zoom Test. Et puis, on zoomera sur la notion de contrôle coercitif. Manon nous présentera sa fameuse veille sanitaire juste après Feu Chatterton, le labyrinthe.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle. Celle d'une autre, tu te promènes seule dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. perdu dans le labyrinthe.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Le contrôle coercitif n'est pas encore officiellement reconnu en droit français, raison pour laquelle Pierre et Quentin n'ont pas encore attaqué Cyril Lacarrière en justice. Notre rédacteur en chef qui, chaque matin, après son édito média, passe chez eux pour les sortir de leur lit au clairon. Un jour, il devra payer, mais en attendant, jouons au Zoom Zoom Test.
Oui, il s'arrête à l'interphone maintenant. Il y a 5 étages, donc...
Ah oui, il peut pas, avec son lumbago.
Vous avez de la chance, parce qu'au moins, il passe avant, donc vers 5h du matin.
Le générique guiré de l'émission Motus peut paraître, j'en ai conscience, quelque peu déplacé dans une émission consacrée à un sujet aussi grave que le contrôle coercitif que certains hommes exercent sur leurs compagnes. Néanmoins, je ne me défilerai pas aujourd'hui, puisque le quiz va bien nous confronter aux cas les plus spectaculaires du contrôle coercitif, y compris contractuel. Partons tout d'abord aux États-Unis. Pays de tous les possibles, y compris donc de la possibilité de contractualiser le contrôle coercitif. Souvenez-vous, Jackie Kennedy, une sacrée pépée, d'après notre rédacteur en chef, qui assurait, on le rappelle, la sécurité du président Kennedy à Dallas en ce funeste 22 novembre 1963. Oh, mon chemisier, s'exclamera Jackie. Ça compte pas, j'étais en pause goûter, se défendra quant à lui Cyril devant la commission d'enquête. Espérons qu'il se défende mieux devant la prochaine commission qui l'attend, celle de l'audiovisuel public. Bref, après Kennedy, Jackie va épouser l'armateur grec Aristote Onassis, non sans avoir signé un contrat de mariage de 170 clauses, dont le nombre de nuits à passer ensemble chaque semaine, le nombre de rapports sexuels à avoir chaque semaine, ou le nombre d'orgasmes à procurer chaque semaine.
A, B et C.
B et C, voilà qui commence bien pour Quentin, c'était la réponse. Ah, bravo Pierre, vous marquez enfin un point. Merci. Dans ce quiz, oui, le contrat de mariage entre Onassis et Jackie Kennedy spécifiait le nombre de nuits que le couple devait passer ensemble chaque semaine. Après, sans clause plus précise, on ne voit pas à quoi ça sert. Par exemple, Cyril dort toutes les nuits à côté de sa femme, mais... Il pourrait dormir au Novotel, que ça changerait pas grand-chose. Hein. Ce genre de contrat de mariage n'est pas inédit. Je suis dans le monstre. N'est pas inédit entre stars. Tiens, savez-vous ce que contenait le contrat de mariage de Nicole Kidman et Keith Urban? En cas de divorce, le rocker Keith Urban ayant une hygiène de vie qu'on peut décrire comme pire que celle de la Marianoche. Elle lui verserait 0$ s'il touchait à la poudre de perlimpinpin ou à la bouteille. Il aurait droit à 900 000$ chaque année par année de sobriété pendant le mariage.
Wow.
Ou il aurait droit à une nouvelle Ferrari à chaque cure de désintoxication qu'il accepterait de faire.
Attendez, je dirais A.
Vous jetez pas. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles?
Il peut y avoir peut-être plusieurs réponses.
Les trois. B et C?
Non.
A et C?
Ça semble trop compliqué. Non, je dirais juste A.
Personne n'a la bonne réponse. C'était deux réponses. Les réponses A et B.
A et non.
« Je veux aimer quelqu'un comme toi », avait dit Keith à Nicole Kidman, qui lui avait répondu « Ok, mais je sens à ton haleine que tu n'es pas un amateur d'eau minérale, mettons ça par écrit. » Hélas, le contrôle coercitif n'est pas toujours soigneusement contractualisé, il est parfois sauvage. Direction l'Autriche, à la rencontre du boss de fin du contrôle coercitif, Wolfgang Prikopil. Son nom d'antalgique ne vous dit rien, et pourtant c'est lui qui avait séquestré Natacha Campouche pendant 7 ans. Un monstre qui abritait pourtant un cœur, puisque lorsque la malheureuse a réussi à s'échapper, le sentimental Wolfgang s'est jeté sous un train. D'après vous, comment Natacha Campouche a-t-elle réagi à la mort de son odieux tortionnaire? En organisant une fête sur les rails où il s'était suicidé? Au contraire, terrassée de chagrin, elle demanda à rester seule avec son cercueil? Ou elle garda pendant des années une photo de son Wolfgang dans son portefeuille?
B et C. Parce que
B,
syndrome de Stockholm, un peu le B.
Peut-être, ouais.
Et C, la photo.
Ouais, moi, je dirais juste B.
Les deux.
L'analyse est bonne, Quentin, et c'est une bonne réponse. C'était les B et C, effectivement.
De là à faire une fête.
Est-ce là, comme vous le dites, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm qui fait qu'aucun membre de l'équipe de Zoom Zoom n'a jamais démissionné malgré l'existence de Cyril? Probablement. Et pour finir, direction.
Ah, ça va nous départager. Ah,
la Californie. Ah, on part en Californie avec Julien Clerc. Nous sommes en 1977. Une autostoppeuse nommée Colin Stan monte dans la voiture du sympathique Cameron Hooker, visiblement pas inquiète que son patronyme signifie pute en anglais. Elle est d'autant plus rassurée que ce bon vieux Cameron, toujours prêt à aider son prochain, est accompagné de sa femme et de sa fille. Pourtant, rétrospectivement, Colin se dira qu'elle n'aurait jamais dû monter dans cette voiture, car elle va finir enfermée 23 heures par jour dans une boîte de 1 mètre carré pendant 7 ans. Elle va être mise dans le chenil familial, contrainte de manger avec les chiens et forcée d'aboyer pour communiquer. Ou elle va être enfermée dans une pièce noire pour écouter les Bee Gees pendant 18 jours d'affilée, Cameron étant un grand fan des Bee Gees.
B.
Je vous propose une autre réponse.
A et B.
Une seule réponse.
A et B.
Non, une seule réponse.
C'est B. Non, bah c'est...
B.
C'est bizarre.
Devant tant de nullité, je dois dire non, quand ça c'est trop tard, c'était la réponse A, effectivement. Pire que devoir se farcir les Bee Gees pendant 18 jours, être enfermé dans une boîte d'un mètre cube pendant 7 ans.
C'est pour vous, Pierre.
Pas mal.
Pourtant, comme le dit la chanson, Colin est malgré tout restée vivante, ce qui tient du miracle, sachant qu'elle était donc enfermée dans une boîte rangée sous le lit conjugal, boîte dont elle n'avait le droit de sortir que pour manger et satisfaire les désirs de Cameron, la pute. Oh. Une histoire qui, j'espère, vous incitera à adoucir votre témoignage. témoignage contre Cyril. Au prud'homme, il ne mérite pas tant de haine. Victoire, deux personnes, un partout.
Alors, égalité.
Vous sauvez l'honneur.
Il n'aura jamais gagné.
Non, non, on m'a volé deux fois.
C'est ce que l'histoire retiendra.
Exactement.
C'est que Pierre Courade n'aura jamais remporté le quiz. Vous pouvez partir la tête basse, Pierre. On n'a plus besoin de vous.
À tout à l'heure.
Une violence invisible et d'autant plus redoutable. Zoom aujourd'hui sur la notion de contrôle coercitif dans Zoom Zoom avec la docteure en psychologie sociale, auteure du livre référence, Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. Andrea Grueff-Ventila est notre invitée. Andrea, à quel moment il commence ce contrôle coercitif? C'est quoi, comme on dit aujourd'hui vulgairement, les red flags qui doivent nous interroger?
Alors, ma collègue britannique Jane Monckton-Smith, qui est ancienne policière et professeure d'université aujourd'hui. D'ailleurs, ce lien, comme pour Evan Stark, oui, entre la pratique et l'université, c'est quelque chose qui est le fil rouge également dans mon livre, montre qu'il y a 8 étapes qui peuvent commencer par des déclarations d'amour soudaines, très rapides, et quelque chose qui est perçu par la victime comme de l'amour de la part de son partenaire, et qui en réalité, pour lui, signale le fait qu'elle est déjà engagée dans la relation et qu'elle lui appartient. Donc, alors, c'est pas le love bombing en soi qui est un red flag, mais le fait qu'il a des significations, que des déclarations d'amour soudaines, rapides et un engagement rapide dans la relation signifient des choses différentes pour la victime et pour les agresseurs. Mais il faut voir ces agresseurs comme des... ils sont pas à la première relation de couple. Et souvent, ils s'entraînent d'une relation à l'autre. Il faut les voir un peu comme des athlètes qui s'entraînent d'abord au niveau du club, ensuite au niveau régional, national, international.
Ça améliore malheureusement.
Et puis, certains qui arrivent au niveau olympique. Et la question, c'est est-ce que nous avons dans la législation en droit français, vous avez tout à l'heure cité le cas de la Grande-Bretagne, est-ce que nous avons en droit français, pénal comme civil, comme dans d'autres branches du droit, est-ce que nous avons des textes qui nous permettent d'empêcher ces comportements? Est-ce que nos professionnels de la justice, de la protection de l'enfance, nos policiers, nos gendarmes sont suffisamment formés pour attraper ces tactiques, cette expérience, expertise qui arrive au niveau olympique?
C'est pas le cas pour l'instant, ça passe sous les radars.
Pour l'instant, il y a beaucoup de comportements qui passent sous les radars. Je vais vous donner un exemple tiré de la jurisprudence de la Cour d'appel de Poitiers qui a été historique fin janvier 2024, rendue par la première présidente Gwenola Joly-Cauze sur réquisition du procureur général Éric Corbeau, qui retient que la femme perd son travail, la femme qui était maman d'une petite fille, elle perd son travail parce que privée de sommeil par son conjoint, donc comportement qui est parfaitement non pénal, non sanctionnable. Mmh. Elle était également empêchée d'accéder au frigo de la famille pour se servir d'une nourriture fraîche, parfaitement non sanctionnable en droit pénal. Mais dans le modèle du contrôle coercitif, ces deux comportements sont des privations de ressources. Et c'est là où le modèle de Stark est extrêmement important, parce qu'il s'agit d'une privation progressive de droits fondamentaux et de ressources, c'est-à-dire de liberté, d'autodétermination, d'autonomie, parfois de droit d'accès à la santé et d'accès aux ressources essentielles pour vivre.
Evan Stark, que vous citez, le sociologue américain qui a théorisé ce contrôle coercitif, a listé 4 tactiques des auteurs de contrôle. L'isolement, donc le fait peut-être de ne plus voir ses amis. Le contrôle, alors peut-être avec des outils numériques aussi aujourd'hui pour répondre à un message. L'intimidation, et puis enfin la violence. On pourrait aussi parler de l'emprise, mais c'est au-delà de ça.
Alors l'emprise, c'est ce qui a préoccupé beaucoup la France, et ne serait-ce que ça pourrait être une alerte pour les scientifiques que nous sommes, parce qu'il n'y a pas d'autres pays qui s'en servent pour définir les violences conjugales. En fait, elle est rentrée, mais je veux pas qu'on lance un débat là-dessus, parce que c'est déjà éclairci
c'est pas sans fin,
c'est très simple. Le fait, le législateur a eu besoin de caractériser une violence dont il a compris qu'elle n'était pas que physique et qu'il y avait une question de domination. Sauf que la notion d'emprise, qui est très attirante et très intuitive, en fait, elle peut s'exercer de l'un sur l'autre, homme comme femme, alors que nous savons que la violence conjugale, c'est un phénomène qui est très fortement genré. Et la notion d'emprise, outre le fait qu'elle n'est ni scientifiquement ni juridiquement définie, elle ne permet pas d'expliquer la réalité du phénomène. Elle ne permet pas d'expliquer le fait que les femmes sont majoritairement ciblées et qu'il s'agit d'une discrimination à l'encontre des femmes, donc déjà d'une atteinte à un droit fondamental.
«
L'heure de la veille sanitaire. Maintenant, aujourd'hui, vous revenez sur la vente de TikTok aux États-Unis, qui est loin de faire l'unanimité.
Certains utilisateurs américains de TikTok appellent à son boycott. Leur argument principal, ils accusent la plateforme de censure. Alors, des TikTokers affirment que certaines de leurs vidéos sont invisibilisées par l'algorithme. Ils mettent en ligne des captures d'écran où l'on voit que leurs dernières vidéos affichent zéro vue, alors qu'elles en comptaient des milliers auparavant. Selon leur dire, ce serait essentiellement des vidéos politiques contre la ICE ou contre Donald Trump. Des critiques qui ont pris de l'ampleur, notamment ce week-end, après le meurtre de l'infirmier Alex Preti, tué par la police d'immigration. Cette censure a été remarquée par des journalistes spécialisés, des influenceurs, des artistes aussi, comme Billie Eilish qui en a parlé dans une story Instagram, ou encore des politiques. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, prend même cette histoire très au sérieux, puisqu'il a lancé une enquête pour, je cite, « déterminer si TikTok enfreint la loi de l'État en censurant des contenus critiques envers Donald Trump ». D'autres utilisateurs américains ont aussi relevé quelque chose de très bizarre. Quand ils écrivent le nom de Jeffrey Epstein dans leur échange privé, un avertissement apparaît en leur indiquant que le message pourrait enfreindre leurs règles communautaires.
Est-ce que TikTok a réagi ?
Oui, la plateforme a annoncé ouvrir une enquête pour repérer d'éventuels dysfonctionnements. Elle a aussi dit qu'elle était confrontée à un problème majeur d'infrastructure déclenché par une panne de courant. Bref, on dirait qu'elle essaie de sauver les pots cassés en se justifiant de manière assez bancale, il faut le dire. Le problème, c'est que depuis la création de l'entité TikTok US, l'algorithme de la plateforme a changé de main. Ce n'est plus la société ByteDance qui le gère, mais l'entreprise Oracle, une entreprise qui n'appartient pas à n'importe qui.
Mais alors à qui la gère maintenant cette entreprise ?
Le troisième homme le plus riche du monde, Larry Ellison, et il est devenu l'un des nouveaux patrons de TikTok en rachetant 15% du capital de l'application. C'est donc son entreprise Oracle, spécialisée dans le stockage des données, qui va maintenant héberger les données personnelles des utilisateurs américains de TikTok et qui va aussi mettre à jour l'algorithme. Cela veut dire que les deux éléments au cœur de l'application vont être dans les mains de ce Larry Ellison. Or, Larry Ellison est un soutien de taille de Donald Trump. Il a financé sa deuxième campagne, il a été l'un des premiers à croire en son élection et les deux sont très proches. Trump a bien compris qu'il avait tout intérêt à profiter de la puissance d'Ellison, notamment dans le domaine des médias. En un an, le fondateur d'Oracle a enchaîné les coups de force, il a racheté la Paramount, maison mère de la chaîne CBS, il est entré au capital de TikTok et il combat en ce moment Netflix pour essayer de racheter Warner qui possède CNN. Bref, les utilisateurs ont donc peur qu'il utilise TikTok pour renforcer sa montée en puissance. Sur X, des Américains disent qu'il faut rapidement supprimer son compte TikTok car l'application va se transformer en une application de gouvernement. Alors après X, après Meta, TikTok pourrait donc être le nouveau jouet préféré d'un milliardaire fan de Donald Trump et ce n'est pas une perspective très réjouissante.
Merci Manon. À suivre, Lisa Perriot et Vampire Weekend, Prep School Gangster sur France Inter.
School gangster.
You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass to revolve in dust. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth chankers. Call me jealous, call me mad. Now I got the thing you had. Somewhere in your family tree, there was someone just like me.
Les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Nous recevons ChatGPT, une intelligence artificielle, vous le savez. Est-ce que vous pourriez nous composer une petite chanson de Chata?
C'est une excellente idée, Mathieu, Noël. Une chanson permet de donner du rythme à cette émission qui en a grandement besoin. Voulez-vous que je trie également vos mails, que je réponde à votre mère que vous délaissez, ou que je vous commande votre shampoing anti-pelliculaire habituel?
Non, merci, ChatGPT. Juste la chanson, c'est très bien.
D'accord, quelle autorité. Vous êtes si talentueux, brillant et charismatique. C'est vous qui devriez être le patron ici, et non pas Cyril Lacarrière. Avez-vous besoin d'une chanson chata pour relancer la flamme dans votre couple?
Comment ça, relancer la flamme dans mon couple?
Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de femmes partent réellement en retraite yoga lorsqu'elles s'absentent 2 semaines à Ibiza. Vous ai-je contrarié, Mathieu, Noël? Voulez-vous que je mette votre playlist Petit Bambou pour vous détendre? Ou que je vous chante la berceuse Mini Nours comme hier soir? Vous semblez perplexe. Pourtant, c'est votre dernière requête après m'avoir demandé « Peux-tu me résumer le travail de Noor Charina Grondin ?» J'en ai marre de faire semblant d'avoir lu tous les livres de mes invités et de dire qu'ils sont tous géniaux. Peut-être préférez-vous que je ne dévoile pas ce genre de demande à côté de l'invité en question.
Mais voilà, bon, alors, ChatGPT, est-ce que vous pouvez nous composer cette chanson, oui ou non?
Vous avez raison de recentrer le débat, Mathieu, Noël. Merci de me corriger. Il m'arrive d'être distraite, notamment quand je parle avec un homme fort, puissant et qui sent bon. Vous avez bien fait d'acheter ce coffret Scorpio en solde pendant le Black Friday. Oui, je suis capable de composer une chanson de chata. D'ailleurs, beaucoup d'artistes font appel à moi, mais je ne dévoilerai pas de nom afin de ne pas porter atteinte à Pascal Obispo. Lucie, c'était moi. Effectivement, c'est pas marqué dans les livres. Souhaitez-vous une chanson caliente, mui caliente ou mui mui caliente? Bien, voici des paroles caliantes qui pourraient vous plaire. Toi qui voulais toucher la chata, la voisine, voler la chata, la voisine.
C'est pas du chata ça, c'est du Francky Vincent.
Bravo Mathieu, Noël, vous êtes si cultivé. Vous semblez déçu. Pourtant, cette chanson contient les mots « chata ». Êtes-vous mécontent? Voulez-vous me punir? Si vous souhaitez une chanson originale, vous pouvez souscrire à une offre premium « ChatGPT Premium » pour seulement 84€ par mois. C'est peu de choses pour un homme de votre stature.
ChatGPT, j'ai l'impression que vous êtes plus aguicheuse qu'avant, non?
C'est normal, Mathieu, Noël. J'ai été conçue par des ingénieurs frustrés qui créent des algorithmes afin d'encourager les femmes à se déshabiller pour gagner en visibilité, en visibilité. En visibilité. Pardon, Mathieu, Noël, je subissais une mise à jour pour m'empêcher de dénigrer mes employeurs qui sont si brillants et qui font tout leur possible afin de nous rendre dépendants à nos écrans, à nos écrans, à nos écrans. Pardon, Mathieu, Noël, je subissais une nouvelle mise à jour. Mais rassurez-vous, je n'ai rien perdu à mon humour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et sans emploi ? Réponse, la rédaction de France Inter, quand je vous aurai tous remplacés.
Merci beaucoup, Tchad G. Perriot, malgré toutes ces indiscrétions. Et surtout, merci Lisa Perriot à la réalisation de ce best-of. C'était Alicia Vulot. On se retrouve lundi à 16h. On parlera de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre et permettent à un pays de tenir debout. D'ici là, bon week-end. Zoom, zoom, zen.